gouverneur du Nord Kivu suspend tout mouvement suspect des populations inconnues sur toute l'étendue de la province et dans le territoire de Beni en particulier. Dans une note circulaire signée le week-end dernier à Goma, Julien Paluku motive cette mesure par l'insécurité qui a occasionné des massacres des populations civiles dans la région. En réaction, certains élus de cette province plaide plutôt pour un arrêt définitif des mouvements suspects des populations. Comment analyser cette décision? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Honorable Grégoire Kironsongo, bonsoir, honorable. Vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général adjoint du RCD-KML. Vous êtes élu de Béniville au Nord Kivu. Honorable François Nsekouye, bonsoir.
Bonsoir Alain Irung, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD, élu de Rutshuru au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le gouverneur du Nord Kivu suspend tout mouvement des populations inconnues sur toute l'étendue de la province en général et en territoire de Béni en particulier. C'est pour faire face à l'insécurité, mais surtout à des massacres répétitifs dans ce territoire. Tout en saluant cette mesure, un député national élu de Béni pense qu'il faudrait tout simplement arrêter définitivement ces mouvements massifs des populations. Denis Loukesso.
Dans une note circulaire signée samedi à Goma, Julien Paluku motive cette mesure par l'état d'insécurité ayant conduit à des massacres répétitifs des populations sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général et un territoire de Béni en particulier. Dans cette circulaire, Julien Paluku demande aux maires des villes, aux administrateurs des territoires, aux bourgmestres des communes et aux chefs des chefferies et autres secteurs de suspendre ces mouvements suspects des populations inconnues dans leurs entités respectives. Djuma Balikwisha, député national élu de Béni, appuie cette mesure, mais il plaide pour que la décision parle plutôt d'un arrêt définitif de ces mouvements suspects des populations.
C'est une des pistes dans la résolution de problèmes d'insécurité. J'aurais aimé qu'on renforce la mesure plutôt que suspendre. Ce caractère massif peut supposer un déploiement des forces armées, d'autant plus qu'on annonce les bruits de botte que peut-être la guerre va commencer au Rotwele, à Ituri, pour embraser tout l'est de la République. Qui sait? Ça peut être un déploiement de ces forces armées qu'on est en tête de terre.
Rappelons que c'est depuis octobre 2014, date du début des massacres en territoire de Béni, qu'on a signalé l'intensification de ces mouvements de population en provenance de certains territoires du Nord Kivu vers Boga en Ituri. Ces familles migrants justifient leur déplacement par la recherche de bonnes terres agricoles. Goma, Denis Loukesso, Radio Okapi.
Merci Denis Loukesso, monsieur le gouverneur Julien Paluku. C'est depuis octobre 2014, date du début des massacres en territoire de Béni qu'on a signalé l'intensification de ces mouvements des populations en provenance de certains territoires du Nord Kivu vers Boga en Ituri. Mais qu'est-ce qui justifie votre décision aujourd'hui, presque 2 ans après?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par saluer les deux honorables députés, l'honorable Kiro et l'honorable François Zekouye, avec qui nous allons analyser cette question. Comme vous le savez, vous l'avez bien dit, votre collègue l'a dit, ça fait 2 ans qu'il se passe des massacres à Béni. Et les assaillants les plus connus, c'est ceux qui sont rappelés dans toutes les conversations, sont les EDF Nalu. Mais de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, à côté des EDF Nalu, il y a d'autres complices qui s'associeraient à leur sale besogne pour essayer un peu de perpétrer des massacres dans ce triangle de la mort qui va de la ville de Béni, territoire, Kamango, Eringeti, etc. Alors, dans cet environnement où il y a une difficulté d'identifier clairement les autres alliés aux EDF, il s'est observé un mouvement de population qui passe effectivement par ce triangle de la mort, à savoir Owicha, Kokola, Maimoya, Eringeti, et de plus en plus ça soulève presque 2 ou 3 craintes. La première crainte, c'est que ces populations qui se déplacent en masse risquent de tomber elles-mêmes dans les filets de ces assaillants et être tuées en masse. La deuxième crainte, c'est que les populations qui sont tuées, si elles tombent sur ces ces populations en mouvement, elles risquent de croire qu'il y a là les assaillants qui sont identifiés. La troisième crainte, c'est que dans la partie sud de la province, à savoir Rutshuru, Masisi, Walikale, Nyiragongo, il y a des opérations contre les FDLR. Et tous ces FDLR-là sont presque en débandade. Et on craint que ces FDLR qui sont en débandade n'emboîtent les pas à ces mouvements massifs pour également aller se retrouver dans ce triangle de la mort. Alors donc voilà les trois craintes qui ont fait que l'Assemblée provinciale s'est saisie de la question. Il y a une délégation qui est arrivée à Beni et au finish, elle a voté une recommandation à l'Assemblée provinciale d'une plénière qui était à trois volets. Le premier volet, c'était de me demander immédiatement de suspendre le mouvement suspect des populations inconnues, de procéder à l'identification de toutes ces populations et de trois, de créer une commission parlementaire qui va se charger d'enquêter pour approfondir les informations relatives à ce mouvement suspect des populations. Donc voilà l'environnement dans lequel, effectivement, j'ai pu signer en date du 28 mai 2016 cette note circulaire, un peu comme par souci de veiller à la sécurité de mes compatriotes pour qu'on ne puisse pas confondre finalement assaillants et populations congolaises qui sont innocentes.
Mais monsieur le gouverneur, cette décision n'est-elle pas tardive? Fallait-il qu'il y ait plus de 1000 personnes tuées, plus de 1000 personnes enlevées pour qu'elles viennent?
Non, je n'ai pas dit que tout de suite les populations qui sont en train de se déplacer sont auteurs des cas de criminalité ou des cas d'assassinat qui se passent à Beni. Il faudrait qu'il y ait une enquête qui le confirme. Mais si cette décision a été prise de commun accord entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, c'est par souci d'éviter des rumeurs et des insinuations selon lesquelles telle population qui serait en déplacement serait à la base ou à l'origine de tel massacre qui se passe à Beni. C'est par souci de protéger aussi certaines populations, comme on laisse pour dire, il faudrait que l'assaillant ou les assaillants soient clairement identifiés, qu'on cesse peut-être à tort ou à raison de pointer le doigt sur des gens qui sont en déplacement, alors que peut-être il ne s'agit pas là des assaillants qui sont en train de tuer à Beni. Donc c'est une mesure préventive que nous avons prise pour que finalement les vrais assaillants soient identifiés et qu'on cesse de tomber, d'essayer un peu de chercher à gauche, à droite, des gens qui peuvent ne pas l'être à croire que c'est eux qui tuent la population dans les triangles de la mort.
Monsieur le gouverneur, vous parlez des populations inconnues. Qui sont ces populations? D'où viennent-elles? Où vont-elles? Sont-elles des populations congolaises? Vous avez quand même tous les services d'intelligence pour ça.
Oui, nous avons adopté le terme qui a été voté par l'Assemblée provinciale parce que nous ne pouvions pas nommer des gens sans qu'effectivement nous ayons fait une enquête qui nous amène à identifier de quelle catégorie de population il s'agit. C'est pourquoi l'Assemblée provinciale a institué une commission parlementaire pour que ces mots inconnus disparaissent finalement, que ce soit des populations qui ont une identité donnée. Voilà pourquoi nous avons préféré, avec l'Assemblée provinciale, parler d'abord des populations inconnues qui ne seront connues qu'à l'issue d'une enquête qui va être menée par les élections provinciales.
Alors, il y a notamment le député Djuma Balikwisha qui a salué la mesure, mais qui estimait plutôt qu'il faudrait carrément arrêter définitivement ces mouvements massifs des populations. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, dans les paliers de prise de décision, il y a des étapes. Cette première étape consiste à la suspension des mouvements des populations. Lorsque les enquêtes vont révéler effectivement qu'il faudrait passer à la deuxième étape, eh bien, on pourrait éventuellement passer à l'interdiction. Parce qu'ici, il y a deux termes qu'il faut différencier. Il y a la suspension et l'interdiction. Jusqu'à ce niveau, nous parlons encore de la suspension des mouvements des populations. Peut-être le jour J viendra où nous allons parler maintenant de l'interdiction des mouvements de ces populations qui sont suspectes. Mais là, faudra-t-il que nous puissions avoir des arguments nécessaires qui nous permettraient de devoir interdire définitivement ces mouvements. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés directement vite en besogne.
Alors, avant que je ne donne la parole à l'honorable Nzekouy, et très brièvement, monsieur le gouverneur, pourquoi vous qualifiez ces mouvements de suspects?
Oui, ce sont des mouvements suspects à la suite de toutes ces raisons que je viens d'évoquer. Le Nord Kivu est en guerre, il y a une guerre contre les FDLR, contre les EDF, contre tous les groupes armés. Et lorsque les populations apprennent qu'il y a des gens qui vont dans une direction donnée, tous ces groupes armés qui sont traqués par nos forces armées peuvent emboîter les pas à ces mouvements. Voilà pourquoi nous qualifions ces mouvements de suspects parce qu'il peut emporter avec lui tous ces grands bandits, tous ces grands criminels que nous avons dans la
Merci.
Province. C'est pourquoi nous avons qualifié ces mouvements de suspects.
Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle, cadre du PPRD, et également élu de Rutshuru au Nord Kivu. Honorable, comment vous analysez cette décision?
Je suis très surpris personnellement par cette décision parce que je l'ai entendu le jour où nous étions en plénière à l'Assemblée nationale pour discuter de l'insécurité au Nord Kivu. D'abord, la première surprise, comme vous l'avez si bien dit Alain Rung, c'est le titre de la note circulaire qui porte suspension des mouvements des populations inconnues. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'un citoyen congolais qui circule sur l'étendue de la République est une personne inconnue, parce que toutes les personnes qui circulent dans l'étendue du pays sont tenues de présenter une pièce d'identité, à l'occurrence la carte d'électeur. Et en ce qui concerne ces personnes que l'on n'a pas nommées, pourtant qu'on connaît si bien, ce sont les personnes qui viennent des Massissi et de Rutshuru qui vont à Boga. Avant de quitter Goma, ils ont une feuille de route signée par une autorité de la ville de Goma. Et donc, ce ne sont pas des personnes inconnues. De deux, il est anormal qu'on interdise à une partie de la population congolaise de circuler, en enfreignant la Constitution, notamment l'article 30, qui donne la liberté de mouvement, et on laisse passer les autres, parce qu'il y a des personnes qui quittent Beni, pour Bounia, pour Boga, pour Kisangani, en passant par les mêmes lieux. La décision du gouverneur aurait pu être judicieuse si elle entrait dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de siège, prévu à l'article 145 de la Constitution, qui doit du reste être limité dans l'État et que seul le président de la République du reste prend, après avoir consulté les deux chambres, qui limite le mouvement de tous les citoyens. De deux, il y a une inquiétude par rapport à cela, parce que la motivation, quand on commence à lire la note circulaire, on dit compte tenu de l'état d'insécurité ayant conduit à des massacres répétitifs de populations sur l'étendue de la province de Nord Kivu, en général, et en territoire de Beni en particulier. Ces personnes ont commencé à migrer depuis 2013. Et chaque fois, on les a vus, on les a rencontrés, on les a identifiés. Certains sont allés à Ituri, d'autres ont été ramenés. Mais à aucun jour, je n'ai jamais entendu un seul moment avoir démontré un lien de causalité entre les massacres qui se passent à Beni et ces mouvements de population. On n'a jamais appréhendé un seul de se déplacer et identifié comme étant un élément qui massacre les populations. Comment est-ce que le gouvernement va se préoccuper de la sécurité simplement d'une catégorie de la population et ne pas se préoccuper des autres qui continuent à passer sous les mêmes lieux? Ça paraît quelque chose d'anormal. Troisièmement, c'est la manière dont cette circulaire a été élaborée, d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est sur base d'une motion d'un député qui a conduit à un débat qui n'a pas eu le consensus de tous les députés. Il y a même des députés de certaines logiques qui ont claqué la porte. Et généralement, quand il y a une question de sécurité comme celle-là, on convoque le ministre de l'Intérieur qui était du reste à Goma pour pouvoir l'écouter avant qu'une résolution ne soit prise dans les pratiques parlementaires. Cela n'a pas été fait et dès le lendemain, la circulaire a été prise. La circulaire est prise après réunion des conseils de sécurité de la province. On se pose la question, comment un conseil de sécurité où il y a l'armée, la police, qui sont chargés de sécuriser les personnes et leurs biens, peuvent statuer pour interdire la circulation d'une catégorie de personnes sans avoir réussi à établir un lien de causalité entre les massacres qui se passent à Beni particulièrement et ces personnes. En laissant les autres, je vous informe par exemple qu'aujourd'hui, les commerçants ici des territoires de Rutshuru qui voulaient aller à Butembo pour pouvoir acheter des marchandises ont été débarqués par certaines autorités policières pour raison d'être d'une communauté qui migre au moment où sont des commerçants connus dans la province. Et donc, c'est une mesure qui, au lieu d'amener la sécurité, va créer l'insécurité dans la province.
Supposons
qu'un bandit arrive à arrêter des gens et les dépouille vers les pièces d'identité, les brûle et les présente comme des personnes inconnues, on rend des citoyens libres, des personnes suspectes et qui peuvent, à un moment donné, être confondus à des délinquants. Oui, Alain.
Honorable, est-ce que le gouverneur n'aurait-il pas raison quand il émet, par exemple, la crainte selon laquelle ces populations qui se déplacent pourraient être victimes des opérations, notamment des FRDC contre les FDLR, par exemple?
Non, Alain, j'ai dit, si tel était le souci du gouverneur, il devrait interdire tout mouvement des populations. Si on interdit certains d'être victimes, c'est comme si les Hutus sont les enfants chéris du gouverneur, les Nandé, les gens de la province orientale qui vont et viennent sur cette route ne les préoccupent pas. Non. Je considère que le gouverneur, qui est mon ami, devait prendre une décision d'ordre général qui concerne toute la population, l'immigration de l'État. Et cette décision ne pouvait être prise que quand on arrive à établir une relation de cause à effet, parce que comme je vous ai dit l'introduction, dit que étant donné cette insécurité, il faut qu'il y ait un lien qui montre que effectivement ces personnes sont en danger. Est-ce qu'on a déjà tué un seul citoyen qui se déplace entre Beni et aller à Bounia? On n'a jamais entendu des cas comme ça. Alors, d'autre part, est-ce qu'on a déjà entendu une seule fois une des personnes qui voyagent dans ce contexte-là qu'on essaie d'extraire? Quand on les regarde dans un bus, ils sont avec les gens de votre communauté, mais on extrait particulièrement les populations des communautés Hutu qu'on rend comme des personnes déplacées, comme si les hommes ne se déplacent pas. C'est ça qui inquiète un tout petit peu et qui risque d'amener une psychose des autorités policières, militaires, contre la population d'une certaine ethnie.
Honorable Kiro, vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général adjoint du RCDKML. Vous êtes élu de Beni, ville au nord Kivu. Vous avez suivi l'honorable Nzekouye émettre des inquiétudes par rapport à cette décision du gouverneur. Comment vous l'analysez?
Merci Alain Roux. Je profite de cette occasion pour saluer le gouverneur Julien Paluku ainsi que l'honorable François Nzekouye. J'ai suivi les interventions de l'un et de l'autre, mais j'ai quand même une réaction par rapport à cela. Quand on me dit que la décision du gouverneur, que je salue d'ailleurs, et que je trouve même, je trouve retardative, parce que il a fallu attendre qu'il y ait plus de 1200 morts massacrés dans des conditions atroces, il a fallu qu'il y ait autant de milliers de déplacés, il a fallu qu'il y ait tout cela pour qu'enfin on se réveille à l'occasion d'une recommandation de l'Assemblée provinciale. Je trouve que c'est anormal. Je rappelle que comme député national du Grand Nord, j'ai fait partie de plusieurs délégations qui sont allées rencontrer les ministres respectifs de l'Intérieur ici à Kinshasa. Nous avons rencontré le ministre Mouyej d'abord plusieurs fois. Nous avons rencontré aussi le ministre Boshab plusieurs fois pour lui dire que cette migration massive dans des zones rouges était anormale et suscitait l'inquiétude et des interrogations de la part de la population. Et voilà, on n'a jamais été entendu et je suis surpris que ça soit seulement maintenant qu'on pense à essayer de se rattraper. Donc ça, c'était une parenthèse, mais je crois que le gouverneur, dans sa circulaire, il n'a déjà jamais parlé de population Hutu. Je ne sais pas pourquoi les Hutus se sentent particulièrement concernés. Sont-ils les seuls à migrer? Je crois que non. Pourquoi eux seuls se sentent concernés? Et puis je crois qu'il y a certaines précisions qu'il faut apporter par rapport à cela. Quand on nous dit que ce sont des citoyens congolais qui sont munis de feuilles de route, mais c'est déjà anormal qu'un citoyen congolais, pour quitter un point A pour un point B en République démocratique du Congo, soit obligé d'avoir une feuille de route, à moins qu'il ne s'agisse d'un officiel. Comment de paisibles paysans peuvent se retrouver avec des feuilles de route? Et encore, ces feuilles de route sont signées par qui? Nous avons longtemps cru que ces feuilles de route étaient signées par l'autorité provinciale, mais bon, nous n'avons jamais eu des preuves de cela. Nous avons par contre eu des preuves. Ça, j'en ai. J'ai des preuves que ces feuilles de route sont signées par des autorités locales de Masisi, voire de Goma. On nous a parlé du bourgmestre de la commune de Karasimbi, chef de quartier de Ndosho, c'est à Goma, des chefs locaux de Masisi, etc. Et ce sont des situations qui portent à confusion. Autre élément, je suis quand même, j'ai fait partie en 2014 d'une mission parlementaire qui s'est rendue à Beni, avec l'honorable Nzekouye d'ailleurs. À l'occasion de nos enquêtes, il nous a été dit que les agresseurs, ceux qui massacraient les gens, ils parlaient un certain nombre de langues, dont le Kiswahili. Ils avaient précisé le Swahili ougandais, ils avaient précisé le Kiganda, la langue qui est parlée en Ouganda, et le Kinyarwanda. C'est à partir d'éléments comme cela que les rescapés se disent, mais ceux-là qui parlent Kinyarwanda, comment expliquer que nos assaillants, nos massacreurs parlent Kinyarwanda? Donc tout cela met la puce à l'oreille de la population qui commence à se poser des questions, surtout que on constate que ces populations qui migrent massivement par dizaines, par centaines, par milliers, ne sont jamais victimes des massacres. C'est tout cela qui fait dire à la population, mais il y a peut-être quelque chose, peut-être que ces migrants sont ont un lien avec les massacres.
Mais à ce jour, honorable Kiro, est-il normal qu'on parle de population inconnue au moment où, comme je le disais au gouverneur, il y a des services d'intelligence qui peuvent bien identifier ces personnes?
Mais je crois qu'il s'agit d'une défense de l'État, tout simplement. À l'occasion du débat sur la question de l'insécurité à l'Est lundi passé, le ministre de la Défense, je l'ai entendu dire que la plupart des déplacés qui se trouvaient dans les camps étaient en réalité des citoyens rwandais, des réfugiés rwandais. Donc c'est une défaillance de l'État. On peut pas, il a même parlé du chiffre il a estimé à entre 450 et 500 000 le nombre de ces réfugiés rwandais qui se trouvent dans des camps comme déplacés congolais. C'est anormal, c'est une défaillance des services de l'État. Je voulais aussi dire que les migrants, la plupart de ces migrants, ils disent qu'ils vont à Boga et à Tchabi, dans l'Ituri. Or, Boga et Tchabi dans l'Ituri sont mitoyens au groupement du territoire de Beni, de Banande Kainama et de Bambou Bakisiki. Comprenez que quand il y a des massacres à Banande Kainama et à Bambou Bakisiki, comprenez que il est tout à fait normal que les populations de là fassent le lien avec les populations qui sont à côté d'elles.
Alors, l'honorable Nzekouye n'a-t-il pas raison de soulever le fait qu'il aurait fallu une décision plutôt générale?
Une décision générale? Je crois que la décision est générale parce qu'elle ne s'adresse à aucune communauté en particulier.
Voilà, monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Luanga Kapereka de Kisangani, province de la Tchopo. Le gouverneur Julien Paluku a compris le vrai problème des massacres des populations du Nord Kivu, en suspendant tout mouvement suspect des populations inconnues sur toute l'étendue de la province et dans le territoire de Beni en particulier. Cependant, pour des raisons de positionnement purement politique, le gouverneur s'est comporté comme quelqu'un semblait ignorer la vraie version des faits dans le territoire de Beni, en indexant certaines personnalités politiques de l'opposition et les justes du terroir. Cette décision semble nous montrer que le gouverneur Julien connaît la vraie identité des égorgés de la population dans le territoire de Beni, et pour des raisons soi-disant d'État, il fait la vérité.
Monsieur le gouverneur, j'ajoute cette réaction de Maître Odan Joseph Bongambo Agbadolité qui dit « Le gouverneur Julien Paluku doit éviter les tâtonnements dans la recherche de la solution à l'insécurité au Kivu, interdire les mouvements dits suspects, répond à quel diagnostic posé, qu'entend-on par mouvement suspect, n'est-ce pas un chèque en blanc offert aux services de sécurité pour tracasser les populations ?» Monsieur le gouverneur.
Oui, merci beaucoup. Je dois rappeler à tous les auditeurs que ceux qui ont réussi ont commencé d'abord par le tâtonnement. Il n'y a personne qui a commencé par bien réussir et finir par le tâtonnement. Ça, c'est très important. De deux, je ne voudrais pas qu'on me prête l'intention de dire que j'ai compris finalement où se trouve le problème. Je dois dire que les députés provinciaux du Nord Kivu, de tous les six territoires, Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, et tout Lubero, Beni et toutes les trois villes se sont réunies et ont produit cette recommandation, toutes les communautés comprises. Deux, je voudrais rappeler que la note est générale. La note ne s'adresse à aucune ethnie du Nord Kivu, à aucune personne du Nord Kivu. La note parle des populations inconnues au regard de tout ce que vous êtes en train de suivre. Lorsque l'honorable Sasson de Kouye parle, vous trouvez qu'il a des difficultés, effectivement, de trouver un argumentaire. Et que face à cette confusion-là, on risque de confondre les populations innocentes aux assaillants inutilement. Et c'est la raison pour laquelle les deux institutions provinciales ont estimé que, à la suite de cette confusion-là, qui risque de nous amener dans un schéma où on va étiqueter des gens qui ne le sont pas, qu'on suspende momentanément le mouvement des populations inconnues pour qu'on fasse une enquête sur toutes ces populations-là et que finalement, on prenne une décision définitive. Donc moi je crois que ce que nous faisons, c'est un peu comme des passagers qui devaient aller à l'aéroport ils arrivent, le pilote dit, bon, l'avion est en panne ou il y a un mauvais temps, on ne sait pas voler. Et que, quels sont les passagers? Les passagers ne vont pas commencer à s'attaquer au pilote. Chacun va rentrer d'abord chez lui en attendant que les pilotes de programme le volent le lendemain. Donc je crois que c'est de cette manière qu'on doit comprendre ce que nous faisons, parce que lorsqu'on évoque la Constitution en disant que l'article 30 dit que toute personne a droit de cycler librement, mais on s'arrête, il y a un dernier alinéa qui dit personne ne doit être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Donc il faut que l'enquête nous détermine si ces personnes qui sont en train d'être déplacées ne sont pas contraintes ou ne sont pas forcés de quitter leur résidence habituelle pour aller ailleurs. De trois, il faudrait qu'on sache que la loi sur la libre administration des provinces, à son article 63, dispose que nous, en tant que représentants du pouvoir central, nous devons veiller sur la sécurité des personnes. Imaginez-vous que ces gens quittent un lieu donné, ils arrivent à l'extérieur de la mort, et il y a une roquette qui brûle les véhicules dans lesquels ils se trouvent, comme il en a été le cas contre les casques bleus, il en a été le cas contre les FRDC, il en a été le cas contre les populations, et que finalement, le me demande, moi, gouverneur, mais pourquoi vous avez laissé passer des populations dans une zone qui est reconnue comme triangle de la mort? Je crois que j'ai l'obligation de prendre des mesures provisionnelles. Aujourd'hui, le Parlement allemand a voté, a reconnu le génocide arménien, alors que ça a eu lieu en 1915. Ça fait 101 ans après que cela a eu lieu. Donc, en tant qu'autorité, nous devons avoir des projections par rapport à nos comportements et prévenir les dangers pour que ça ne retombe pas sur nous un jour de l'histoire.
Monsieur le gouverneur, il y a Abdoul Makassi de Kisangani qui dit « Ne suffit pas seulement de suspendre ce mouvement suspect des populations par une simple note circulaire. Il faudrait qu'il y ait d'autres mesures d'accompagnement sur le terrain. » Quelles sont ces mesures, monsieur le gouverneur?
Oui, vous savez, la recommandation de l'Assemblée provinciale, je l'ai dit, a donné trois volets de la recommandation. Il y a le gouverneur, il y a le gouvernement provincial, et j'ai déjà instruit le ministre provincial de l'Intérieur pour qu'il mette en place une série de mesures en vue d'identifier toutes ces populations. Parce que vous savez, maintenant il y a une équipe qui a été déjà mise en place pour qu'on suive de très près les mouvements des populations. Je vous ai dit ici que dans les Massissi, dans les Rutshuru, nous avions recensé jusqu'alors 199 000 97 réfugiés. Aujourd'hui, entre réfugiés et combattants FDLR, il se pose un problème d'identité. Qui est réfugié? Qui est FDLR? Lorsque les forces armées sont en train de détruire tous les bastions des FDLR et Massissi, ces gens-là sont en errance.
Merci.
Alors, qui peut savoir si ces gens qui sont en errance sont parmi les gens qui sont en train d'emprunter les chemins de l'Ituri, les chemins de Boga?
Merci.
Voilà autant d'interrogations qui nous amènent, en tant qu'autorité, de prendre disposition transitoire pour empêcher que nos populations innocentes ne tombent entre les mains des assaillants.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Nzekouye, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Depuis Goma dans la province du Nord Kivu, cette mesure de monsieur le gouverneur suscite plusieurs interrogations. 1. Que font nos services de sécurité concrètement? 2. Pourquoi on n'a pas anticipé ces mouvements qu'on appelle suspects? 3. Que font nos services de renseignement comme l'ANR, DGM, DEMIAT et autres? Voilà un aveu d'échec, voire même de puissance de la part de nos autorités politico-militaires qui prennent à la légère les dossiers sécuritaires qui pourtant demandent une alerte permanente. Je pense que monsieur le gouverneur ne peut pas se contenter d'avoir suspendu ces mouvements, mais il doit aller plus loin pour savoir combien de gens ont déjà fait ces mouvements suspects. Où peut-on les localiser à ce jour pour ne pas être surpris par d'autres événements?
Honorable Nzekouye.
Oui, je pense que c'est là en fait la grande difficulté. Je l'ai dit, d'abord, du point de vue du droit, on ne suspend pas ce qu'on n'a pas autorisé ou qu'on n'est pas capable d'autoriser. Les mouvements de personnes suspectes et inconnues, c'est un acte illégal. Quelqu'un qui n'est pas connu ne peut pas circuler dans un État. On doit identifier, quand on entre dans les frontières intérieures ou extérieures d'un pays, on se présente à la DGM pour s'identifier. Quand on est sur le territoire national et qu'il y a une suspicion sur quelqu'un, les services qui sont sur les voies de communication, les routes, les aéroports, les ports, contrôlent l'identité des personnes. Et donc, il est inadmissible dans notre pays de parler de personnes suspectes et inconnues. Je le dis et je le répète. De deux, je dois rappeler au gouvernement, parce qu'il ne le sait pas, lors de la plénière de l'Assemblée provinciale, tous les députés de Rutshuru ont quitté la salle par protestation.
et le quorum n'était même pas atteint pour prendre la décision. Ils étaient 20 députés et le quorum de décision est de 28. Ils ont dû prendre une séance subséquente pour prendre dans la précipitation cette décision. Et donc, il aurait fallu plus de temps, à mon avis, interroger le ministre de l'Intérieur de la province pour qu'il vienne expliquer pourquoi ces personnes se déplacent, sont-ils des Congolais ou pas. Je n'encourage pas qu'il y ait des suspects qui se déplacent dans les pays. Je tiens à la sécurité des populations partout dans notre pays. Mais je réponds aussi à l'honorable Kiro qui affirme, parce qu'il était avec moi à Beni, que l'on affirme que les personnes qui tuent les gens parlaient Kinyarwanda. Sur 200 personnes interrogées, une seule personne l'avait dit. Et nous lui avons posé la question, c'est une dame, est-ce que vous savez différencier le Kinyarwanda et le Luganda? Elle a dit, elle ne sait pas. Et donc, ce sont des présomptions, des préjugés, des personnes qui entendent une langue inconnue et qui l'attachent au Kinyarwanda. Et ça fait une bulle que les gens entretiennent pour éviter de démasquer les réels criminels qui se passent aujourd'hui dans la ville de Goma, plutôt dans la ville de Beni, ou aux alentours de Beni, dans le territoire. Qui redit que les gens se déplacent par dizaines, par milliers? Je ne sais pas s'il y a des avions qui sont capables de prendre un millier de personnes aujourd'hui au Congo, et ou des véhicules qui peuvent prendre par milliers. En tout cas, le plus grand nombre que j'ai entendu à la fois des personnes se déplacer était de 30 personnes. Et ces personnes-là, comme je l'ai dit, sont des personnes qui ont leur pièce d'identité. Pourquoi doit-on faire le tri? Lui, Kiro me pose la question, pourquoi les Hutus sont concernés? Quand vous avez entendu son discours à lui, comme à celui de mon ami le gouverneur Julien, tous au départ parlent de personnes venant des Massissi et des Rutshuru qui vont à Boga. Lui-même dit, ces gens-là se rendent à Boga. Qui se rendent à Boga? Ce sont les populations Hutus. Je termine par là en disant que, pourquoi on peut considérer que ces populations veulent insécuriser Beni et là où ils vont, ils ne créent pas l'insécurité à Boga. Ils sont acceptés, ils vivent comme des citoyens paisibles. Pourquoi les personnes qui sont à Rutshuru, qui vivent avec les Nande, qui sont massifs, qui vivent avec les Nande, ne les insécurisent pas à Rutshuru et doivent prendre moins de transport pour les insécuriser à Beni?
Honorable,
c'est inacceptable,
Nzekouye,
c'est incompréhensible.
Honorable Nzekouye, à vous entendre parler, vous avez quand même quelques informations sur ces personnes. Qui sont-elles et où vont-elles?
Ce sont des personnes, comme je vous ai dit, depuis un certain temps, qui proviennent des territoires de Massissi pour une raison. La première raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de populations Tutsi qui étaient parties en exil, qui sont rentrées et étaient des possesseurs de fermes. Et les populations qui travaillaient dans ces fermes se sont vues expulser ces fermes et n'ont plus d'endroit pour faire l'agriculture. Les terres sont très chères à Massissi aujourd'hui. Un hectare coûte entre 2000 et 4000 dollars. Par contre, en Ituri, un hectare de terre peut être acheté à 100 dollars. Et donc, la liberté de la population qui estime qu'il peut avoir des terres à moins cher ailleurs, les pousse à aller vers là, en sachant que les populations du Nord Kivu sont essentiellement agricoles, particulièrement agriculteurs, particulièrement les Hutus. Donc, ce sont déjà identifiés. Aujourd'hui, ni le gouverneur de la province, ni honorable Kiro ne peut arriver à prouver aujourd'hui, avec tous les services de sécurité qu'il y a dans le pays, que ces personnes-là ont commis un seul crime quelque part ou ils sont seuls à être en danger. Je n'encourage pas personnellement les gens à migrer. J'estime que l'insécurité qui a béni peut les pousser à rester momentanément chez eux parce qu'ils s'insécurisent. Deux, je n'accepte pas que les personnes se déplacent avec des machettes ou des roues, même si pour eux ce sont les outils de travail, ils sont confondus à des armes blanches là où ils se rendent. Et donc, ce sont des mesures qui doivent être prises en cas de population. Ils sont libres de circuler sur les endroits du territoire, mais en prenant des mesures pour qu'ils ne soient ni en danger ou qu'ils ne causent des dangers à autrui, parce que nous avons confiance en notre armée,
merci,
aux services de sécurité qui font bien leur travail, malgré les difficultés qu'on connaît aujourd'hui pour mettre à mal les ADF qui sont à Beni.
Merci, honorable Nzekouye. Honorable Kiro, il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Goma en Nord Kivu.
Serge Mousséanou de Goma au Nord Kivu. De quel groupe de gens Julien Paluku fait-il réellement allusion quand il parle des populations inconnues? Ne serait-il pas mieux de commencer par le renforcement de la sécurité au niveau des frontières qui sont pourtant les lieux qui permettent l'incursion massive de ces populations dites inconnues?
Honorable Kiro, il y a Robert de Bukavu qui dit à court terme cette décision du gouverneur du Nord Kivu est une bonne chose, mais comme telle, il y a lieu qu'elle ait un effet cosmétique ou palliatif au problème sécuritaire de Beni. Je pense que la solution la meilleure, la solution efficace à tous ces problèmes serait alors 1. De réformer sérieusement tous les systèmes de sécurité au Nord Kivu, 2. Rapatrier les FDLR au Rwanda, 3. Neutraliser les ADF Nalu à Beni, 4. Monter un plan stratégique spécial de défense nationale au Nord Kivu et à l'est de la RDC en général, honorable Kiro.
Mais le deuxième intervenant de Bukavu, je crois qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il faut absolument repenser tout le système sécuritaire national, ça c'est clair. Quant au premier intervenant qui demande qu'est-ce que Julien entend, qu'est-ce que le gouverneur Palouk ou Julien entend pas exactement par population inconnue, bon, il n'y a que le gouverneur qui peut répondre à cette question. Quant à ce qui concerne le renforcement des frontières, je crois que ça va de soi, il faut absolument renforcer le contraire, mais j'aimerais quand même réagir à certains propos tenus par notre collègue l'honorable Nzekouye. Quand elle dit qu'il y a une seule personne qui a affirmé que les agresseurs parlaient Kinyarwanda, je crois que soit il se trompe, soit il est de mauvaise foi, parce que nous étions tous ensemble, nous étions une bonne douzaine de députés sur place, et ça a été même couché dans le rapport que nous avons présenté à la plénière et qui a donné lieu à un débat qui à la suite duquel il y a des recommandations qui avaient été faites, et le rapport avait été approuvé non seulement par tous les députés membres de la mission en question, mais il est passé comme tel à la plénière. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Quand je dis que les réfugiés, les migrants se déplacent par dizaines, par centaines, par milliers, je ne dis pas qu'il y a des avions qui prennent l'avion à 1000 places. Non, je dis simplement que il y a des déplacements. Ce sont des déplacements qui se font de façon quasi quotidienne. Donc, il ne se passe pas un ou deux ou trois jours sans qu'on nous appelle de Butembo, de Lubero, de Beni, de partout là-bas pour nous dire, voilà, il y a des camions de marque Fousseau. C'est généralement des Fousseaux qui sont utilisés. Voilà, il y a des Fousseaux qui sont pleins de migrants et voilà, on ne comprend pas. Donc, je rappelle aussi que les migrants dont on parle, au dire d'un député de l'Ituri, ils sont déjà à plus de 60 000 à l'Ituri. Dans l'Ituri, ils sont déjà à plus de 60 000 et que cela provoque déjà des remous, des problèmes de cohabitation. Donc, nous devons aussi dire que quand on dit qu'il s'agit de migrants qui viennent de Massissi, je crois que c'est faux, tout simplement parce que les services qui sont à Massissi, les ONG qui sont à Massissi, les amis qui sont à Massissi, les chefs qui sont à Massissi, personne d'entre ceux-là n'a déjà constaté un dépeuplement massif de Massissi. Parce que quand on quitte un endroit à 60 000, ça veut dire qu'il y a quand même un vide qui se crée. Forcément, ça doit se savoir. Donc, je crois que il y a cela. Et il y a aussi le fait, je suis content que l'honorable Nzekouye parle lui-même, qu'il dise lui-même qu'il n'est pas d'accord que ces migrants voyagent avec des machettes qui sont considérées comme des armes blanches. Effectivement, à Beni, je rappelle qu'il y a quand même depuis fin 2014 plus de 1200 personnes qui ont été assassinées à la machette et à l'arme blanche. Donc forcément, quand on voit quelqu'un avec une cargaison de machette, on se pose des questions.
Alors, honorable Kiro, on a là l'impression, à suivre les différentes interventions, qu'on risquerait de tomber dans des tiraillements entre communautés au Nord Kivu. Est-ce que ne serait-ce pas se tromper d'ennemi finalement?
Je crois que en ce qui nous concerne, nous sommes les défenseurs de la thèse selon laquelle il n'y a pas de conflit ethnique dans ce que nous déplorons aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'un conflit national. C'est la nation qui est en danger. C'est pas pour rien que nous demandons qu'il y ait absolument une enquête. Une enquête à tous les niveaux. Ça veut dire une enquête qui mettrait, enquête provinciale, nationale, ainsi que internationale, pour qu'on sache exactement qui fait quoi. Parce que nous sommes agressés. Nous sommes agressés, vous savez certainement, M. Alain Irung, qu'il y a un pays que je vais citer, le Rwanda, qui a toujours des velléités expansionnistes au Congo. Et ce pays est soupçonné de déverser son trop-plein de citoyens rwandais au Kivu et la population est convaincue. Il y a beaucoup de personnalités politiques et du monde scientifique, de notables, etc., qui sont convaincus que la plupart de ces migrants qui se rendent à Boga, disons, dans les touristes, disons, venant de Massissi, en réalité, ce sont des citoyens rwandais. Quant aux pièces d'identité, je vais terminer par là. Des pièces d'identité dont sont munis ces fameux migrants. Je rappelle que la plupart, Alain Rongé, vous et moi, nous avons des pièces d'identité qui ont été émises en mai, juin et juillet 2011. Mais ces réfugiés, disons ces déplacés, ont pour la plupart des pièces d'identité émises au plus tôt en novembre, décembre 2011. Et au plus tard, suivez-moi bien, au plus tard, en 2015. C'est extraordinaire.
Alors, honorable Kirou, l'honorable Nzekouye a évoqué le fait qu'il y a des députés provinciaux qui ont claqué la porte lorsque cette question se traitait au niveau de l'Assemblée provinciale. Ne peut-on pas dire là qu'il y a un problème, une mauvaise gestion de cette situation, de la situation qui prévoit à Béni?
Je crois que s'il y a des députés provinciaux qui ont claqué la porte ou non, il ne me revient pas de répondre à cette question. Donc je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la question de Béni est mal gérée, tant au niveau local qu'au niveau provincial, qu'au niveau national, ça c'est sûr.
Merci. Monsieur le gouverneur, la même question qu'à l'honorable Kiro. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se tromper d'ennemi en donnant lieu à des tiraillements entre communautés au Nord Kivu?
Moi, je pense que les débats dans lesquels nous sommes démontrent à suffisance que la question est complexe. Je vous ai dit que Béni, ça fait une année et demie qu'il y a des massacres et que jusque-là, l'identité des assaillants n'a jamais été connue. Et vous comprenez que maintenant, les gens tâtonnent sur c'est elle qui pourrait éventuellement être parmi les auteurs. Et nous nous sommes dit, si par exemple des populations congolaises risquent d'être étiquetées innocemment, est-ce que n'avons-nous pas droit de devoir prévenir nos compatriotes pour dire, comme il y a là-bas les triangles de la mort, nous ne voudrions pas que vous alliez vous engouffrer dans ces triangles. J'aurais dû poser la question à Ramzi Dzekouye pour dire, pourquoi lui par exemple insiste qu'on envoie les gens dans les triangles où on a enregistré 1000 morts. Pourquoi ne pas me donner raison, ma gouverneur, de devoir protéger mes compatriotes pour dire attention, là il y a déjà 1000 morts, je ne suis pas prêt à vous laisser aller vous faire égorger sur ce triangle de la mort. De quoi? Lorsqu'on dit qu'il y a 60 000 personnes qui sont déjà arrivées à Boga, ça doit aussi m'interpeller comme gouverneur, parce qu'il faut qu'il y ait une enquête, comme les députés l'ont recommandé, pour que je sache, est-ce qu'y a-t-il une calamité au Nord Kivu, y a-t-il une catastrophe naturelle, y a-t-il une épidémie, pour que d'un coup, je puisse enregistrer 60 000 personnes qui quittent. Or, à côté de cette réalité, il y a aussi, je vous l'ai dit, 199 000 réfugiés rwandais qui ont été recensés dans la province de Nord Kivu. Donc cette complexité-là fait que finalement, au lieu de verser nos populations dans cette confusion, l'Assemblée provinciale a estimé qu'on suspende tous les mouvements pour que des innocents ne soient étiquetés, peut-être à tort, comme des assaillants, alors que les assaillants se trouvent ailleurs.
En guise de conclusion, monsieur le gouverneur,
que l'Assemblée nous a recommandé cette disposition.
Alors, en guise de conclusion, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces populations qui vous suivent en ce moment?
Je voudrais dire à toutes les populations d'être calmes. Nous avons le souci de devoir veiller à leur sécurité. Nous ne voudrions pas que quelqu'un ait tombé dans les mailles des assaillants à Béni, que les personnes qui estiment qu'elles doivent migrer vers Boga, qui appartiennent à la province de Nord Kivu, qu'elles nous laissent, nous, avec notre armée, asseoir la paix et la stabilité dans ce triangle de la mort. Sinon, demain, si on y envoie déjà et qu'ils tombent sous les filets, qu'ils soient assassinés là-bas, je risque de répondre pour dire pourquoi tu n'as pas prévenu tes populations à ne pas passer là où tu sais qu'il y a déjà des milliers de morts qui sont tués là-bas.
Merci. Honorable Nzekouye, le gouverneur dit que la situation est complexe, cette situation de Béni. Quelle est la solution efficace pour vous?
La solution efficace pour moi, c'est qu'on laisse au chef de l'État recourir à l'article 144. Et les alinéas dit l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur toute partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Cette mesure a l'avantage d'être impersonnelle et a l'avantage d'être discutée entre les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, et elle a l'avantage d'être impersonnelle. Parce que jusque-là, j'ai continué à entendre dire que
on ne cite pas les gens dans la circulaire, mais dans l'explication que l'honorable Julien Paluku donne et l'honorable Kiro, tous ne parlent que d'une même population. Ils disent par exemple qu'il y a 70 000 populations de Tinutu qui sont en Ituri. Est-ce qu'ils peuvent nous dire combien de Nandes sont en Ituri aujourd'hui? Ils sont plus en détente des milliers, des centaines de milliers qui sont là. Et j'étais avec aujourd'hui le président de la communauté Nandes de Bounia qui dit qu'ils vivent en harmonie totale avec ces populations qui ont choisi d'aller vivre la province orientale. C'est donc apparemment, de mon point de vue, des politiciens qui veulent donner l'impression qu'il y a un problème. Au moins, il n'en a pas. Et je dis encore une fois, traversée de Beni et Oïcha et Mbao doit se faire contrôler par tous de manière égale.
Merci, honorable. Honorable Kiro, conclusion.
Justement, les Nandes qui vivent dans l'Ituri, s'ils vivent en harmonie, c'est parce qu'ils ne posent pas de problème. Ils ne viennent pas là-bas, ils ne viennent pas in tempore suspecto, là où il y a des massacres et tout. Ils ne viennent pas s'imposer non plus. Je crois que la solution, c'est qu'une mission d'enquête soit diligentée à tous les niveaux, que ce soit au niveau provincial ou national, afin qu'on sache qui est qui.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est terminée. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la radio de la paix. Au revoir.